Bonjour à tous. Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin. Vous savez que depuis cette année 2023, nous vous avons beaucoup parlé sur les projets, différents projets de l'Église, ce qui est très important d'avoir une même vision pour avancer tous ensemble. Et j'ai trouvé quand même que c'est très bien, mais on est souvent dans le faire. Et je me suis dit que pour ce matin, ce serait plus judicieux de réfléchir sur ce que je suis devant le Seigneur et comment je suis vraiment spirituellement devant le Seigneur. Et la question que j'aimerais vous poser, comment allez-vous spirituellement? Comment allez-vous? Pas seulement vous, mais pour ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas pu venir ce matin. Comment allons-nous spirituellement devant le Seigneur? Est-ce que nous avons toujours la certitude de la vie éternelle, etc. C'est vrai que ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, il y aura trois baptêmes dans deux semaines. Nous nous réjouissons pour cet engagement des trois personnes, mais ce n'est pas parce que nous sommes baptisés ou que nous avons confessé Jésus-Christ notre Seigneur que nous avons acquis définitivement le salut éternel. Luther, à un moment donné, il a beaucoup parlé sur le salut par la foi. Et les gens, à un moment donné, à cause de son message qui était très bien, mais ils avaient mal interprété, et qu'il suffisait juste confesser et que dire que je crois en Seigneur et après avoir expérimenté quelque chose avec le Seigneur, il pensait avoir acquis. Et ensuite, certaines fidèles vivaient un peu n'importe comment. Et c'est pour ça qu'il réprimandait toutes ces personnes. J'aimerais vraiment que ce matin, qu'on puisse vraiment s'examiner soi-même. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Il y a un verset que Paul nous dit, très important, pour qu'on puisse se remettre en question, pour savoir si je suis vraiment bien devant le Seigneur, si le Seigneur agrée mon comportement, ma pensée. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, il est écrit « Mettez-vous à l'épreuve, examinez vous-même. Si vous vivez dans la foi, vous reconnaîtrez que Jésus-Christ est parmi vous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. » Voilà, jusqu'ici notre lecture. Important d'avancer, mais aussi à un moment s'arrêter pour s'examiner soi-même. Est-ce que vraiment je suis à la hauteur de ce que le Seigneur m'attend? J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Et ma réponse est non, je ne suis pas à la hauteur de ce que je pourrais être pour le Seigneur. Et j'étais désolé à Dieu en disant que oui, souvent je suis dans le faire. Je me délaisse de temps en temps ce côté spirituel, peut-être par la fatigue, peut-être par des découragements. Bien sûr, il y a aussi des points d'encouragement, mais voilà, je me suis réfléchi. Il y a aussi un autre verset qui dit, dans Hébreux, chapitre 3, verset 12, « Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. » Je relis. « Frères, donc ce sont, enfin, on ne sait pas exactement l'auteur de ce livre. Certains disent c'est Paul, d'autres disent Apollos. On ne sait pas vraiment qui c'est. Mais l'auteur s'adresse aux Hébreux, c'est-à-dire les Juifs qui se sont convertis, qui ont accepté Jésus-Christ comme sauveur et maître. Donc il leur dit frère, donc c'est-à-dire frère en Christ. Prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, qu'il soit dans le péché, incrédule, reniant Dieu, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. Ça me fait penser le personnage d'Emmas. J'avais déjà une fois prêché sur ce personnage. On voit trois fois l'apparition de Demas dans la Bible. C'était un des collaborateurs. On voit ça dans Philippiens, Colossiens et dans 2 Timothée. Et vous savez que ce soit Philippiens ou Colossiens, Timothée aussi, Colossiens, ce sont des lettres de captivité, c'est-à-dire que Paul était emprisonné à l'époque et il écrivait justement des encouragements, des lettres d'encouragement à ses fidèles. Et là, dans ces lettres, en adressant aux Colossiens et aux Philémons, il dit, d'abord aux Colossiens, chapitre 4, verset 14, en parlant de Demas, il dit d'abord, il présente Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Demas. Donc là, on voit bien que Paul était accompagné de Demas, un certain Demas, qui a travaillé avec lui. Dans Philémon aussi, il le décrit en disant que, 1, 24, ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Demas est présenté comme un des compagnons d'œuvre de Paul, un personnage très important. C'est comme si, voilà, un apôtre ou un évangéliste de nos jours était accompagné par un collaborateur fidèle qui pouvait justement l'aider. Le problème, c'est que on voit encore un autre verset parlant de Demas, c'est dans 2 Timothée 4, verset 9, il dit « Viens, donc c'est Paul qui s'adresse encore, viens ou plutôt vers moi, donc il s'adresse à Timothée, car Demas, donc un des collaborateurs d'après Philémon et Colossiens, m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Voilà. On voit bien que dans ce personnage, Demas, qui était un collaborateur, qui se réjouissait sûrement d'œuvrer pour le Seigneur, à un moment donné, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que la Bible ne nous parle pas, mais par amour, pour le siècle présent, par amour pour de ce que le monde lui offre, il a quitté. Il a quitté pour aller dans le monde. C'était vraiment triste. Et ça m'a fait penser un petit peu pas mal de personnages qui étaient autour de moi, qui au départ étaient très zélés pour le Seigneur, et puis petit à petit, ils se sont refroidis dans leur foi, et ils se sont éloignés de Dieu. La semaine dernière, j'étais à Paris pour accompagner ma fille, pour qu'elle soit dans les écoles portes ouvertes pour l'année prochaine, puisqu'elle va à la fac l'année prochaine. Et donc, j'ai pu visiter 2 jours à Paris. Là, j'apprends des nouvelles qu'un des anciens que j'ai connus, qui était très fidèle à l'église d'avant, il a quitté l'église. Et maintenant, il avait le cancer métastasé et qu'il vivait un moment très difficile. Et là, ma maman me disait que je l'avais visité il y a peut-être l'année dernière, quand il était encore à la maison. Ma maman me disait la semaine dernière, tu sais, cet homme qui venait chaque dimanche à l'église, ça fait des années qu'il ne vient plus et qu'il a laissé tomber la foi. Et maintenant qu'il sait qu'il va bientôt mourir, il a peur du noir. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il allume toutes les lumières de sa maison que ce soit parce qu'il dit, mais dans l'ombre, dans le pénombre, il y a aussi la mort qui vient vers lui. Il a peur de la mort. Il était vraiment triste de le voir ainsi. Il était bien. Peut-être que sa foi, quand il était à l'église, je ne sais pas, j'ai pas compris pourquoi il a abandonné la foi. Est-ce que lorsqu'il venait à l'église, c'était juste une foi? Est-ce que c'était juste une religion pour lui? Je ne sais pas. Je vois aussi d'autres personnes qui, au départ, étaient très zélées, et finalement, avec le temps, parce qu'ils ont été blessés ou parce qu'ils ont été déçus par l'Église, ils quittent. Ils s'éloignent de l'Église. Et ça me rend triste de les voir ainsi. Ce qui est intéressant dans Hébreux, après avoir dit « Frère, prenez garde que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner de Dieu vivant », le verset suivant c'est « Encouragez-vous donc les uns les autres, chaque jour, tant que dure l'aujourd'hui dont parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de comprendre en se laissant tromper par le péché. » Il est vraiment important, pour ne pas s'éloigner du Seigneur, qu'on se réunisse le plus souvent possible pour s'encourager, pour dire peut-être des célébrations, des prières ensemble, pour partager nos sujets de prière, pour intercéder, pour entourer ceux qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui ne vont pas bien. Les encouragements est très important dans la vie de l'Église. J'aimerais vraiment vous dire, vous rappeler que la foi que nous avons reçue par la grâce de Dieu, la vie spirituelle que nous pratiquons n'est pas acquise pour toujours. On peut avoir des accidents comme Démas ou comme cet ancien. C'était un ancien, la personne que je vous avais partagée, celui qui est malade. C'était un ancien de l'Église. Il avait la charge, il ne prêchait jamais, mais il avait la charge de beaucoup de responsabilités dans l'Église. Et à la fin, avoir peur de la mort, ça me rendait vraiment triste. Il y a des gens qui pensent être sauvés, alors qu'ils ne sont pas sauvés. Comme les pharisiens, par exemple. Les pharisiens pensaient qu'ils étaient sauvés. Ou encore, il y a d'autres personnes, il n'y a pas que les pharisiens, mais de nos jours aussi. Hein, ils croient en Dieu, en un Dieu, mais sans croire Jésus. Et bien du coup, hein, ils croient être sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Et même dans l'Église aussi. Dans l'Église, parce qu'ils ont fait un pas, un jour, et qu'ils ont reçu ou expérimenté quelque chose, qu'ils pensent avoir acquis cette vie éternelle. Non. Le Seigneur nous demande vraiment de grandir dans la foi, pas être statique, rester comme bébé spirituel. Les bébés spirituels, au bout de 20 ans, si on reste bébé, on les appelle les handicapés. Ne soyons pas des handicapés spirituels, mais que nous puissions vraiment grandir dans la foi. Et qu'est-ce que, pour cela, vraiment, oui, pour grandir, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons assez de relations avec le Seigneur par la prière, par des intercessions, par la lecture de la parole de Dieu? Ou bien nous nourrissons ce que le monde nous offre tous les jours? Le soir même, quand vous êtes rentré à la maison, quand vous vous couchez, qu'est-ce que vous avez nourri de tout, toute la journée? Est-ce que c'était quelque chose de bénéfique spirituellement ou des choses qui sont futiles, inintéressantes? C'est vrai que, bien sûr, c'est important de s'intéresser sur le monde, sur nos hobbies aussi, sur ce qui se passe. Voilà, moi, je m'informe aussi de ce qui se passe dans le monde. Question géopolitique, ça m'intéresse beaucoup aussi. Et puis, il y a aussi des gens qui travaillent, qui s'intéressent à la famille, qui s'intéressent aussi aux relations. Mais est-ce que vraiment, au bout de la, à la fin de la journée, est-ce que nous sommes vraiment heureux d'avoir passé cette journée avec le Seigneur ou sans le Seigneur? Les pharisiens avaient aussi la connaissance de la parole, mais leur entêtement, leur égocentrisme les ont aveuglés pour ne pas voir la volonté de Dieu pour eux, etc. J'aimerais encore vous lire un verset dans 2 Thessaloniciens 1:8 à propos de ce qui se passe après. Au milieu d'une flamme brûlante, et qu'il tirera vengeance de ceux qui ne connaissent pas Dieu et de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Il y a deux choses. Il y a les gens qui ne connaissent pas Dieu, ou qui ont refusé Dieu, ou encore ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Pour grandir, nous devrions justement obéir à la parole de Dieu. On peut entendre l'évangile, mais c'est vrai qu'il arrive aussi de ne pas obéir. Est-ce que tu peux lancer là? Je pense que c'est un dessin que je vous avais déjà montré dans le passé, pendant une présidence. Voilà, c'est à partir de ce dessin, ça s'appelle « La lumière du monde ». C'est un tableau peint par William Gottman Hunt. C'est à partir du verset Apocalypse 3 où il est dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Quand vous voyez un petit peu la porte, voilà, la porte est le symbole de l'âme humaine fermée à son appel. Et donc Jésus vient toquer sur cette porte. Ce qui est intéressant dans ce dessin, c'est qu'il n'y a pas de poignée à l'extérieur. Jésus n'entre pas, ne s'impose pas pour entrer dans cette maison. Il attend que le propriétaire de la maison ouvre cette porte. Il est respectueux. Il respecte notre libre arbitre. La seule façon, en tout cas, de l'ouvrir est de l'intérieur. Donc la personne qui entend le message de Jésus doit l'accepter et ouvrir sa vie pour l'admettre. On voit aussi, on ne voit pas très bien, mais on voit aussi les mauvaises herbes qui sont autour de la porte, qui symbolisent le péché. Elles empêchent l'ouverture de la porte, tout comme les péchés empêchent souvent les gens de suivre Jésus-Christ. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont dans le péché et qui me disent « Jean, moi je ne peux pas venir à l'église, ou je ne suis pas encore prêt, je suis trop dans le péché. » J'ai dit, mais dans ce cas-là, repends-toi, eh bien, c'est simple. J'ai dit, non, c'est pas si compliqué. Moi, je veux être authentique, je suis encore dans le monde, je viendrai plus tard. Bon. Heureusement, le Seigneur fait des miracles. Celle qui est mariée hier, Joëlie, je l'ai vue quand elle était dans le monde. J'ai demandé quand elle était à la maison. Enfin, je l'avais vue une fois pour parler un petit peu avec elle, chez elle, accompagnée de, bien sûr, sa maman Gabrielle, quand elle était dans le monde, pour lui dire que, voilà, si tu veux, je suis là pour parler. Tu as un jour entendu la parole de Dieu. Et je suis prêt à discuter ou prier avec toi si tu as un sujet de prière, etc. Et là, j'ai senti vraiment une gêne, un ressentiment, un sentiment très négatif pour que je parte. Donc j'étais presque chassé. Je suis parti. Et depuis, j'avais beaucoup prié pour sa conversion, pour son retour au Seigneur. Et ensuite, quelques années plus tard, hein, quand j'ai appris sa conversion, quand je l'ai vue à l'église ici, j'étais tellement heureux de la voir ainsi. Voilà. le Seigneur fait des miracles. Elle qui était tellement loin, loin du Seigneur, dans le péché. Et je pense que je peux vous parler puisqu'elle avait déjà témoigné devant vous tous ce qu'elle a vécu avant. Et maintenant, l'avoir ainsi fixé son regard vers le Seigneur, vraiment le mariage était incroyablement béni par le Seigneur. Je les vois vraiment transformés. Je dis, mais gloire à Dieu, quoi. Gloire à Dieu pour sa transformation, pour la bénédiction que le Seigneur accorde. Et tout est possible. Mais il suffit justement d'ouvrir la porte. Le Seigneur nous demande d'ouvrir cette porte. Et le Seigneur ne va pas ouvrir de sa propre force. Il va nous attendre. Il va juste toquer. Tu es un peu loin du Seigneur. Tu es un peu loin de moi. Est-ce que tu veux bien revenir vers moi? Il y a les fruits tombés au sol, ce qui sont pourris. Cela symbolise aussi la façon dont certaines personnes traitent l'invitation de Jésus. Comme les mauvaises herbes autour de la porte, c'est un symbole aussi de désolation, de décadence, qui accompagne une vie vécue sans la lumière du monde. Mais tout ça peut être transformé au moment où nous ouvrons notre porte pour la repentance, pour revenir vers le Seigneur. Le Seigneur peut continuer à frapper, et lorsque nous entendons cet appel, on peut vraiment l'accepter et ensuite vivre une vie d'obéissance. Il est prêt à entrer dans notre cœur, dans votre cœur. C'est ainsi que nous pouvons demeurer en lui et lui demeurer en nous. Il y a des gens qui, ayant écouté le bon message, refusent souvent la vérité. Par exemple, au moment du Sodome et Gomorre, le Seigneur a vu que la ville était complètement envahie par le péché et le péché a atteint le comble. Et donc, il décide de punir ou détruire cette ville, Sodome et Gomorre. Il envoie des messagers, des anges, pour dire aux justes, à la famille de Lot, de partir de cette ville qui va être détruite. Et les gendres de ces deux filles, de Lot, avaient bien entendu le message de la destruction de Sodome et Gomorre. Mais ils ont pris ce message comme une plaisanterie. Il y a des gens dans le monde aussi qui entendent le message, des avertissements. Et qu'est-ce que nous faisons de ces avertissements? Le Seigneur aussi continue à nous parler avec des avertissements, avec des histoires, avec un passage biblique, avec à travers aussi l'histoire du monde. Qui aurait cru il y a quelques années que nous allons être confinés pendant des mois? On n'aurait jamais pu imaginer, et on l'a vécu quand même. Qui aurait imaginé qu'il y aurait une guerre en Europe il y a un an et qui allait justement influencer toute l'humanité pour que le monde connaisse l'inflation, etc., les difficultés financières. De même, il y a aussi des tremblements de terre, des bruits de guerre, des guerres. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Et le Seigneur aussi, à travers toutes ces histoires, nous donne des avertissements pour qu'on soit prêt, pour qu'on se repent, pour qu'on s'agenouille devant le Seigneur. Et il nous dit vraiment d'avoir la foi qui sauve. La Bible est catégorique sur ce point. Dieu a le désir et le pouvoir de sauver sans réserve tous ceux qui sincèrement le recherchent. Dans Ésaïe 43, 45, il dit « Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » La foi, ce n'est pas juste une connaissance. Parce que le diable aussi à cette connaissance de l'existence de Dieu. Il a même avoué que Jésus était le Fils de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui pouvait le sauver. Ce n'est pas la connaissance, mais c'est vraiment la foi qui le sauve. Dans Jacques 2, 19, Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Non seulement il faut accepter, il faut connaître l'existence de Dieu, mais aussi vivre une vie d'obéissance. La foi qui sauve est celle qui dure inébranlablement, quoi qu'il se passe. Dans 1 Pierre 1, 7, il est dit que, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Que nous puissions avoir cette persévérance dans la foi malgré les difficultés. Et que nous puissions aussi vivre dans l'obéissance, dans Romains 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il y a vraiment, dans notre foi, il y a l'état intérieur et l'état extérieur. C'est bien de confesser par notre propre bouche, par notre propre parole, que Jésus est mon Seigneur. Répéter cela, c'est très important aussi, l'état extérieur, mais aussi vivre à l'intérieur. Je vous invite vraiment à voir, à lire dans Hébreux 11, les hommes de la foi, hein, qui ont vécu vraiment des expériences incroyables avec le Seigneur. Je donne juste un exemple d'Enoch, qui n'est pas mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Que nous puissions vraiment être agréables à Dieu. Recevoir ces témoignages. Je disais, j'ai commencé ce message, je vais conclure. J'ai commencé ce message en disant qu'il faut se remettre en question. Très important, avant de mieux repartir. Que ce ne soit pas juste un jour ou deux jours, mais qu'on puisse, oui, s'agenouiller devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, voilà, comme Enoch, que je sois agréable à toi? Peut-être que je dois peut-être m'exercer davantage dans certains domaines, progresser, améliorer. Je ne veux pas, aucun cas, vous mettre dans la culpabilité. Mais ça doit venir de votre propre volonté. Comme le Seigneur frappe et que le propriétaire de la maison doit ouvrir lui-même, voilà, le Seigneur aussi peut nous accorder un discernement de ce qu'on doit faire à chacun, différemment. Et si vous êtes troublé, c'est aussi bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a une bataille qui se fait à l'intérieur. Il y a là, voilà. Dans Romains 7, il est dit que je trouve donc en moi cette voie. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? On voit que, à travers cette confession de Paul, il est vraiment dans le questionnement. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Parce que je veux faire le bien, mais je n'arrive pas par mes propres forces. Il faut que tu interviennes pour que tu m'aides. Donc, je dirais, si vous avez ce genre d'attitude, c'est déjà une bonne chose. Parce que s'il y a une bataille qui se fait à l'intérieur, le Seigneur aussi vous aidera. Et après, gloire à Dieu Jésus-Christ qui va venir, enfin, qui est présent pour nous aider. Et que, vraiment, comme Paul, jusqu'au bout, que nous puissions être patient et victorieux jusqu'à la fin. Il a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que nous puissions garder la foi jusqu'au bout pour être agréable au Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons manqué nos devoirs ou pour être agréable à toi. Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, parce que c'est toi qui peut nous donner le vouloir et le faire. C'est toi qui peux nous diriger pour nous éloigner du péché. C'est toi qui peux vraiment nous transformer, comme tu as transformé Joélie. Tu peux aussi nous transformer pour améliorer notre foi, pour être ferme et même parfois même voir porter beaucoup de fruits. Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour ceux qui sont loin de toi en ce moment, qui s'éloignent de plus en plus avec certaines personnes, ou avec toi aussi, avec l'Église, que tu puisses leur parler là où ils sont et que les accompagner, les entourer. Que vraiment, Seigneur, qu'ils ne deviennent pas des démasques, mais qu'ils puissent se repentir et revenir vers toi comme Pierre l'a été. Oui, Pierre même avait renié toi trois fois, mais il s'est repenti. Il est revenu vers toi et qu'il a été transformé. De même, vraiment, nous te prions pour que toutes ces personnes, même nous aussi, lorsque nous sommes loin, que tu puisses vraiment étendre ta main bénissante, protectrice, pour nous ramener vers toi et vivre une pleine communion avec toi, mais aussi avec nos frères et sœurs qui peuvent être présents pour nous encourager, pour nous intercéder. Nous te prions tout cela au nom de Jésus. Amen.